Direct en jeu, la radio insolite, nous allons traiter un sujet très sérieux ce matin. Alors j'aime bien parce que juste avant de démarrer, il m'a dit « je ne suis que le traducteur ». Oui mais enfin attendez, vous vous rendez pas compte, il a quand même traduit un ouvrage. Bonjour Didier.
Bonjour Alain.
Didier Mille qui est traducteur d'un livre qui a été écrit par Will Cockerell. Dites donc Didier, déjà qu'est-ce que vous avez fait tomber dedans là quand vous étiez petit? Comme ça, vous êtes né, vous vous êtes dit tiens je vais faire la traduction de livre?
Non pas du tout, en fait mon parcours, je suis Guy de Haute-Montagne au départ, et j'ai mené de très nombreux groupes en Himalaya, en trekking, au camp de base de l'Everest entre autres. Je me suis intéressé très tôt au monde anglophone, puisque j'ai fait un séjour quand j'étais assez jeune, de 3 mois, dans les îles britanniques, en Écosse. Je me suis beaucoup intéressé au monde anglophone de l'alpinisme. Et donc, lorsque Catherine Lestivelle, des éditions du Mont Blanc, m'a proposé de traduire ce livre de Will Cockerell, ça m'intéressait d'autant plus que moi, je connaissais personnellement une bonne part des intervenants qui sont cités dans le livre, puisque dans le cadre de mes activités professionnelles, j'avais organisé une expédition à l'Everest sur le versant nord, avec un tour opérateur lyonnais à l'époque. Et donc, j'ai été un petit peu partie prenante, ou en tout cas bien au courant, bien informé de tout ce qui s'est fait, et j'ai suivi d'assez près l'évolution commerciale à l'Everest, et le livre de Will Cockerell m'a extrêmement intéressé sur le plan personnel.
D'accord. Dites, quand j'entends guide de haute montagne, il ne faut pas avoir peur pour faire ce genre de choses.
C'est un métier, certes, c'est un métier à risque. On peut le dire simplement comme ça, c'est un métier à risque. Maintenant, je dois dire que j'ai très vite orienté ma carrière plutôt dans l'organisation des voyages et des trekking, justement pour me faire un peu au risque que je ressentais en tant que guide de haute montagne.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'un phénomène de mode? Parce que bon, avant, c'est vrai qu'il y avait des gens qui grimpaient, qui faisaient le Mont Blanc, qui faisaient quand même divers sommets. On avait l'impression quand même que c'était un exploit, quelque chose d'assez conséquent, un défi sportif. Là maintenant, quand je vois les chiffres, ben on a l'impression quand même que c'est le truc à faire, c'est une expérience.
Alors, les chiffres sont effectivement assez impressionnants. On est passé en quelques années, à l'aube des années 80, par exemple, il y avait 104 alpinistes qui avaient atteint le sommet.
Oui.
104, à l'aube des années 80.
On part de l'Everest, là, on est bien d'accord ?
Ouais, on part de l'Everest, bien sûr. Aujourd'hui, on en compte plus de 11 000. Voilà, 11 000 personnes qui ont atteint le sommet de l'Everest. Donc, est-ce que c'est un phénomène de mode ? D'une certaine façon, oui. Et en fait, le livre est vraiment très très bien parce qu'il explique justement comment est née cette mode et cet engouement pour l'ascension de l'Everest. Il faut bien voir que l'ascension de l'Everest n'est pas une ascension banale, n'est pas accessible au commun des mortels, même à quelqu'un de bien entraîné, c'est quand même très particulier. Mais arriver à mener autant de personnes au sommet de l'Everest dans des conditions raisonnables de sécurité, c'était un pari totalement impensable. À l'époque où moi j'étais un petit peu mêlé à cette course à l'Everest, on considérait que ça ne deviendrait jamais un phénomène de masse, ce qui s'est devenu aujourd'hui, parce que les conditions logistiques étaient littéralement insurmontables. Or, au fil des ans, les intervenants différents qui se sont succédés, les guides, d'abord occidentaux, puis maintenant les palais, qui se sont succédés à l'Everest, ont réussi l'exploit de monter un business, parce que c'est un business, florissant, qui rapporte beaucoup d'argent au Népal en particulier, au Sherpa un peu moins, mais au Népal en particulier. Et cette course à l'Everest, effectivement, a été possible grâce à un développement logistique et à une mise en place de la sécurité qui est vraiment absolument étonnante. Aujourd'hui, le taux d'accidentologie sur l'Everest, il est de 0,5% sur l'ensemble des gens qui vont à l'Everest. Donc c'est plus faible pratiquement que le taux qu'on doit connaître chez nous dans les Alpes.
D'accord, ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir une préparation physique, il faut être complètement à fond. Comment ça se passe ?
Alors même pas, en fait, c'est d'abord un défi mental de se lancer dans la course à l'Everest. Le livre le décrit très bien, il explique bien que ceux qui arrivent au sommet, ceux qui arrivent en tout cas dans les derniers centaines de mètres avant le sommet, s'ils sont là, c'est pas par hasard. Les autres, ceux qui sont pas convaincus, ceux qui n'ont pas la détermination, ils ont fait demi-tour avant. Donc oui, c'est mieux d'arriver, effectivement, plus on va être en forme, plus on va optimiser ses chances d'arriver au sommet. Mais aujourd'hui, avec l'utilisation de l'oxygène d'appoint à partir de d'altitudes beaucoup plus basses qu'on utilisait l'oxygène avant, c'est-à-dire qu'on utilise l'oxygène à partir de 7000 mètres en gros maintenant, alors qu'avant l'oxygène était utilisé pratiquement à partir du dernier camp, du camp au col sud, on l'utilisait pas avant. Donc la mise en place, quand on utilise l'oxygène, on ramène l'organisme à une altitude beaucoup plus basse, et donc ça permet à des gens qui normalement ne devraient pas se trouver là-haut de s'y trouver. Après, ceux qui arrivent au sommet, c'est quand même des gens particuliers. N'importe qui ne peut pas prétendre dire « Ah, je m'inscris et je vais aller à l'Everest ». Oui, aller à l'Everest, oui, aller au sommet, c'est quand même une autre histoire.
En découvrant le livre, j'ai eu l'impression que c'est un guide de voyage. Je me suis dit, tiens, c'est comme tous les guides qu'on voit, on peut découvrir certains pays, certaines villes. Là, je me suis dit, tiens, ça permet tout simplement d'avoir les trucs et astuces et de voir comment les temps forts ou les moments où il faut vraiment être complètement mobilisé, quoi.
Oui, c'est quand même un peu plus qu'un guide de voyage. C'est surtout, moi je l'ai vécu comme un documentaire, comme un documentaire qui retrace depuis le tout début et depuis les années 80 avec le lancement par le Texan Dick Bass du challenge des Seven Summits, de gravir chaque sommet le plus haut de tous les continents. Donc c'est lui qui a initié un peu cette course et qui a lancé ce phénomène de mode. Là, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. La mode chez les cadres supérieurs de se lancer comme défi d'aller à l'Everest et de réussir l'ascension de l'Everest. Et là, effectivement, on peut effectivement parler de mode, en tout cas dans une certaine frange de la population.
Alors, une chose que j'ai découvert aussi, j'ai adoré. Maintenant, quand on monte, on peut s'arrêter à 5364 mètres, puisqu'il y a quand même un camp de base luxe. Alors, il y a de l'accès Internet, il y a du barista, il y a des masseuses, il y a des écrans de cinéma. J'ai trouvé ça génial, je me suis dit, pas possible. Là,
on voit ce développement du luxe, oui, on peut parler de luxe, du camp de base. On le doit à une personne très précise qui s'appelle Russell Bryce en français, qui est un guide néo-zélandais installé à Chamonix de très longues années, je comprends bien. Et qui a lancé son credo à lui, c'était plus mes clients sont confortables, plus ils ont de chances d'arriver au sommet.
Ça, c'est vrai.
On peut résumer la position comme ça. Donc, il a développé d'abord sur la face nord, versant tibétain, où il est devenu une véritable personnalité. On l'appelait le maire de Rongbuk, le maire de la face nord. Il a commencé à développer une notion de sécurité portée à l'extrême, de sécurité et de confort portée à l'extrême, avec une immense tente dôme. Il a été le premier à avoir la première grande tente dôme avec moquette à l'intérieur, avec bar, quasiment open bar à certaines heures. Enfin, voilà, il avait une notion du bien vivre et d'être au confortable au camp de base, et donc ces expéditions étaient chères, c'était parmi un des opérateurs les plus onéreux, mais par contre, il offrait une sécurité totale, et ce qui est remarquable, c'est qu'en 50 expéditions, il n'a pas eu à déplorer une seule victime. Puis, au moment du passage de la flamme olympique, les Chinois ont durci la réglementation côté le nord, côté tibétain. Finalement, Russell Rice en a eu assez de négocier avec les Chinois. Ce qui est négocié avec les Chinois, c'est négocier avec un mur. Et il est parti s'installer au sud. Il est allé rejoindre le camp de base népalais, où il a continué de développer et de mettre en place son organisation logistique très sophistiquée, avec des prises de risque, puisque une année, il a jugé que les températures étaient beaucoup trop élevées. Et que ça faisait courir trop de risques à son équipe, à ses clients, mais surtout à son équipe, et qu'il a décidé d'interrompre son expédition et de rembourser ses clients, ce qui est un geste particulièrement étonnante de la part d'un organisateur commercial.
Tout à fait.
Et donc, il a été le seul à interrompre son expédition en jugeant les risques trop élevés cette année-là.
Juste une question indiscrète, quand vous dites température trop élevée, parce que je suppose qu'il fait un peu frais là-haut.
Oui, mais justement, les températures étaient positives.
Ah.
À l'époque où
on
a pris sa décision, les températures devenaient positives la plupart du temps dans la journée, dans cette fameuse cascade de glace. Vous savez, l'Everest, versant sud, est descendu par une icefall, une cascade de glace, une chute de Sérac, que jamais en Europe on irait franchir. Si on trouvait une cascade de glace équivalente sur un des sommets, un des grands sommets chez nous, on ferait le détour, on passerait pas dedans.
D'accord.
Donc, cette cascade de glace qui est le franchissement incontournable, les températures devenaient positives et lui estimait que c'était beaucoup trop dangereux de se trouver là. On est obligé de monter et descendre plusieurs fois hein, puisque pour s'acclimater, pour transporter le matériel et en particulier pour les équipes d'assistance. N'oublions pas que qui dit confort dit matériel lourd, dit matériel encombrant, et que donc ça augmente le nombre de porteurs, le nombre de sherpas d'altitude, le nombre de rotation dans la icefall, et le risque, évidemment, augmente d'autant. Et donc, lui a pris la décision très sage et très, très belle d'interrompre son expédition et de dire « moi, je ne continue pas dans ces conditions-là ». Les autres ont continué. Cette année-là, pas mal de gens sont allés au sommet et il n'y a pas eu de gros accident mortel comme Russell pouvait le craindre.
Traduire un livre de ce type-là, c'est compliqué ou c'est juste une traduction ?
Je trouve que d'une part, comme je suis du milieu de montagne, tout ce qui est termes techniques ou autres ne me pose vraiment aucun problème et que je comprends très bien ce dont il s'agit. Après, moi, j'ai été longtemps au milieu du contact, comme je l'ai dit au début, du contact anglophone. Je maîtrise très bien l'anglais, en tout cas à l'écrit, peut-être mieux qu'à l'oral, parce qu'à l'oral, je n'ai pas assez souvent dans mon anglophone, mais en tout cas très bien à l'écrit. Et donc, C'est du travail de traducteur, mais en soi, ça ne me pose pas de problème majeur. J'ai fait des traductions techniques beaucoup plus complexes que celle-ci.
D'accord, mais ce n'est pas une traduction traditionnelle. C'est bien quand même d'être dans le milieu et de parler de choses qu'on connaît.
Oui, tout à fait. Le fait, ma connaissance personnelle du milieu de la montagne, des intervenants, du lexique lié à la montagne, me permet effectivement d'être à l'aise dans une traduction de ce type.
D'accord. Alors, j'ai oublié de préciser un truc, c'est que le livre n'est pas encore sorti.
Il sort le 1er avril. Il sort demain. Voilà, il sera demain dans les bacs des libraires, où chacun pourra aller se renseigner. C'est vraiment un très bon livre, parce que ce n'est pas un livre à charge. Ce n'est pas le huitième livre pour décrire que l'Everest, c'est une poubelle.
Ça, c'est bien.
C'est
oui.
Pas pour dire que c'est une poubelle. Mm-hmm. Mais... c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il montre comment, par quel processus, en fait, personne n'a jamais voulu en arriver là. Fondamentalement, personne n'a jamais voulu arriver à la situation où on en est arrivé. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'enchaînement des faits, des causes et des effets à travers les différents acteurs et comment, finalement, sans que personne le veuille vraiment, ce soit devenu ce que c'est devenu, avec quelque chose de très remarquable. Par exemple, vous vous souvenez certainement de la tragédie de 1996 décrite dans le livre de Schopenhauer, où huit alpinistes sont morts. Et en fait, le livre de John Krakauer, quand il est sorti, même les gens intéressés par ce business se sont dit « c'est la fin de notre business, c'est fini ». Et en fait, pas du tout, ça fait l'effet inverse. La croissance du volume commercial après l'apparition de livres de John Krakauer a explosé. Ce qui montre bien qu'il y a une attirance pour ce risque que représentait l'ascension de l'Everest. Le risque était bien mis en évidence dans le livre de John Krakauer. Et le livre de Cockerell apporte un autre éclairage, justement, qui est
D'accord.
extrêmement intéressant. John Krakauer était partie prenante dans l'histoire, il était jugé partie. Le Cockerell est extérieur à tous ces événements. Il interroge tout le monde. Et c'est vraiment extrêmement intéressant de rentrer justement à l'intérieur de tous ces processus, de comprendre ce qui peut se passer et comment on en est arrivé à la situation où on en est aujourd'hui.
Est-ce qu'avec le livre, on va avoir la chance de vous voir en conférence, en présentation ?
Ah, il faudra demander à Catherine Destizel des étudiants du Mont-Blanc.
Catherine
pourquoi pas.
Ah bah je vais l'appeler, je vais lui demander carrément, parce que je pense que ça serait intéressant, parce qu'il y a d'un côté le fait de lire, mais le fait d'échanger quand même avec vous ou d'avoir une présentation d'autre part, c'est aussi passionnant, quoi.
Voilà, donc oui, tout à fait, ça serait une idée intéressante.
Bon,
Voilà.
parfait. Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, donc, je vous rappelle, le livre a un titre porteur qui s'appelle Everest, l'entreprise commerciale, l'histoire de l'industrie du guidage sur le toit du monde. Wilkie Coquerel, traduit par Didier Émile, que j'ai eu le plaisir d'accueillir ce matin. Et puis, le livre sort demain. Vous n'hésitez pas à vous faire plaisir. Merci à vous, Didier, d'avoir pris ces quelques minutes.
Merci. Alors, merci beaucoup.